Je rappelle ma question, la notion d'école est-elle utile pour penser le devenir du durkheimisme? Et je m'étais formulé la question comme ça, et je pensais que j'avais formulé une question simple qui me permettrait de faire plaisir à Jean-Christophe Marcel et de le remercier de m'inviter à cette session. Et j'ai dû déchanter aussitôt parce que je me suis aperçu que c'était une question incroyablement compliquée et dont je n'étais même pas capable de venir à bout. Alors ça suppose quelques indications initiales sur durkheimisme et la façon dont on peut entendre durkheimisme et sur la réponse que je vais donner. Je donnerai ma réponse d'emblée, si bien que mes développements ultérieurs seront quasi inutiles. Alors durkheimisme, qu'est-ce que ça peut être? C'est sans doute une tradition constituée. Alors, le durkheimisme existe pour nous qui enseignons la sociologie comme ce verre sur cette table. Voilà. Posé devant nous, le durkheimisme, tradition constituée. Et ça a l'avantage d'exister, d'être un déjà là, d'avoir une consistance, j'y reviendrai, des livres, des revues, etc. Le durkheimisme, c'est aussi un peu plus que ça. Parce que dès qu'on réfléchit au processus du durkheimisme, on voit qu'il y a des gens qui sont pris dans cette tradition constituée où ça existe, mais en même temps qui se mettent à y réfléchir pour se dire qu'est-ce qu'elle a pu être, cette tradition, et aussi qui font des travaux sur cette tradition. Alors, par exemple, je reviendrai à cette expression, qu'est-ce que c'est qu'exhumer des documents sur une tradition historique? Et donc, c'est-à-dire que le durkheimisme, c'est aussi, deuxième point, une analyse réflexive de une tradition intellectuelle. Bon. Et puis, c'est pas tout. Je veux dire, j'y reviendrai après. Il m'est apparu, en réfléchissant à mon sujet, que le durkheimisme, c'était encore plus compliqué que ça, parce que ça mettait en jeu toute une série de rapports entre des gens. Alors, le rapport entre des gens, il y a d'abord le rapport entre des gens qui sont des collaborateurs et un type qui s'appelle Durkheim, avec tout le problème que ça pose. C'est-à-dire, c'est un nom propre qui va devenir un nom commun pour désigner une tradition de pensée. Mais ce n'est pas le seul rapport que ça engage. Ça engage ensuite le rapport entre les collaborateurs et celui qui est le centre de l'étoile, ce qu'on a appelé dans nos traditions le maître. Alors, est-ce que c'est un maître, pas un maître? Les disciples, je ne souscris pas à la dichotomie, mais enfin, il y a une relation entre ces gens. Et puis, le durkheimisme, c'est encore une troisième chose, une fois que j'ai indiqué tous ces rapports, c'est encore le rapport que j'entretiens, moi, avec le résultat de ce rapport entre les gens et de ce rapport entre les gens et le maître. Donc le durkheimisme, c'est tout ça, c'est ces trois aspects. Vous comprenez bien les difficultés que j'ai pu rencontrer. Et il m'est apparu que le durkheimisme avait, de ce fait, sensiblement changé, sans cesser d'avoir le même nom, et s'était sensiblement transformé. Et au fond, j'étais dans une situation, je le redirai, c'était sensiblement transformé pour une raison essentielle entre le moment où il m'est arrivé d'écrire sur le durkheimisme, de participer au début de ce qu'on appelle rétrospectivement le groupe d'études durkheimiennes, ça représente les années 74-75 du siècle passé, excusez mon âge. Bon. Et le durkheimisme s'était sensiblement transformé, et c'est cette transformation en définitive, qu'est-ce qui a pu se passer, dont j'ai cherché à me faire une idée. Je ne donnerai pas beaucoup d'éléments, mais j'en donnerai quelques indications. Et en particulier, dans cette transformation, comment et pourquoi le durkheimisme est-il devenu ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une espèce de référence systématiquement reconnue, une catégorie pratique devenue une référence, on y reviendra. Une espèce de prise de position générale et générique, le durkheimisme. Et en même temps, le durkheimisme, il lui est arrivé un truc extraordinaire, c'est que ça ne sert plus à rien. Ça sert à faire des cours, ça sert à faire des enseignements, mais ce n'est pas un programme de recherche mobilisé pour faire telle ou telle chose. Par exemple, j'aurai l'occasion d'évoquer dans cette communication très rapidement la façon dont le durkheimisme est devenu un produit américain. Durkheim est devenu, par exemple, enfin, il n'y a pas de Durkheim, il y a Merton révisé Durkheim, quoi. Bon, c'est autre chose. Voilà, mais tout ça, ça, aujourd'hui, à l'époque, si vous voulez, Merton, ça sert à quelque chose. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Et donc, J'ai souhaité réfléchir, finalement, c'est ça le problème que je me suis posé. Comment il se fait que les Durkheimiens, les collaborateurs, sous le terme d'école, existent, en même temps que ce terme d'école désigne sans doute un représentant, un groupe d'hier, dans lequel il y avait de la proximité entre des gens, et un programme de recherche avec un point d'interrogation, mais en même temps que ceci ne contribue plus à rien aujourd'hui, c'est-à-dire comment les Durkheimiens n'ont-ils pas réussi à faire école? Donc je suis passé d'école à la catégorie que les gens se donnent à eux-mêmes à l'origine, je vais y revenir, à cette question, pourquoi le durkheimisme n'a-t-il pas fait école? J'ai presque traité mon sujet, j'ai presque fini, hein. D'une certaine façon, mais c'est ça. Ouais. Alors d'abord, je suis toujours dans des considérations préliminaires. Comment l'expression école est-elle venue au groupe durkheimien? C'est une question qui a été posée, il me semble, ici, c'est-à-dire les débuts, l'origine, l'origine de l'étiquette, etc. Alors, j'ai feuilleté mes notes, etc. J'ai trouvé trois choses. D'abord, c'est un groupe de circonstances dans lequel l'expression école durkheimienne existe d'emblée. Dans les correspondances qu'il y a entre les collaborateurs, Durkheim dit un jour, je ne peux pas relever, mais peu importe. Un de ses collaborateurs, non pas lui, parce que je préférerais que ce soit quelqu'un de l'école. Bon, voilà. Une relation entre des collaborateurs, catégorie immédiate. Puis, école, ça change de sens complètement, parce qu'il arrive des choses épouvantables, en particulier, il y a une hécatombe incroyable liée à la guerre de 14, et ça va amener, après la guerre, le neveu de Durkheim à parler de ce que sont ses collaborateurs. Et il y a des textes de Mauss importants. Je ne sais pas, par exemple, un texte de 1925, In Memoriam. Par exemple, aussi un document récemment exhumé sur sa candidature au Collège de France. Voilà. Et là-dedans, Mauss parle d'école. L'école, il évoque l'école, les collaborateurs de l'école, etc. Donc, on a l'école, bon, encore. Et puis l'école, ça devient encore autre chose, quand l'expression est tellement consacrée qu'il se met à y avoir des opposants, des ennemis, etc. Par exemple, vous connaissez tous les chiens de garde 1932. Dans les chiens de garde 1932, mise en veut à l'école durkheimienne, le monstre hideux. Donc, on a une expression qui est. Excuse-moi, excuse-moi. Et là, tu entends? Ça va mieux. Ça méritait pas mieux. Bon. Alors, donc, l'expression est née comme une catégorie pratique, et finalement, elle désigne un groupe, et elle attire l'attention sur l'attestation de la réussite intellectuelle collective d'un groupe. Hein? Et en même temps, cette question devient pourquoi cette réussite collective se limite-t-elle à un moment et tombe-t-elle dans un oubli, mais cet oubli n'est pas celui de la catégorie. Voilà. Et ça met en jeu des problèmes compliqués. Vous voyez, je suis toujours dans mes considérations introductives parce que.
Tu vas rentrer dans le vif du sujet, j'espère.
Oui, mais sur la contribution à pourquoi une école, je crois que j'avais l'impression que tu avais déjà dit des choses, tu vois. Mais bon, qu'on peut discuter. Bon. Alors, c'est une catégorie pratique initiale qui devient quelque chose à travers ses usages. C'est à la fois la catégorie d'école à travers ses usages, c'est à la fois le signe et le terrain de relation qui organise une connivence, il y a une alliance, il y a une complicité entre des gens, et la question de l'autorité ne vient qu'après. Il n'y a sans doute pas d'autorité qui constitue, je sais pas, une section armée, une section disciplinaire qu'on va faire marcher comme un seul homme. L'autorité, ça, c'est une espèce d'autorité morale. Initialement, dans le groupe durkheimien, c'est l'autorité morale du plus ancien. C'est que le groupe d'études durkheimiennes n'est pas né à l'initiative de Durkheim. C'est Bouglé qui va voir un de ses anciens, qui tout le monde fait des années, il y a des années intéressantes, des années comme l'année sociologique, l'année psychologique, etc. Et pourquoi on ne ferait pas notre année aussi, d'autant qu'il y a déjà une section dans une revue qui rend compte des travaux de l'année. Alors, voilà. Donc, cette catégorie née comme ça, il n'y a pas d'autorité pour définir cette catégorie. Et cette catégorie finit par devenir un nom commun qui sert rétrospectivement à désigner la genèse de ce processus, la genèse d'un processus qui s'est effacé. La catégorie tente à devenir, d'une certaine façon, un obstacle à l'analyse de ce qui s'est passé. La genèse du groupe se dissipe et il n'existe plus qu'à travers sa réussite, c'est-à-dire ce qu'il a contribué à faire. Et ça va permettre toutes les reconstructions possibles de ce qu'est l'autorité du groupe de Kémien, dont le modèle reste à mes yeux, je ne suis pas sûr si on soit d'accord sur cette interprétation, mais dont le modèle reste à mes yeux, le livre de Terry, le grand livre de Terry Nichols Clark. C'est-à-dire, un Américain, il dit, mais comment ça se fait que... Il y a eu le durkheimisme, etc. Ah ben voilà, c'est un type, il a fait une prophétie, il fait d'ailleurs de l'histoire des sciences dans la logique mertonienne, donc il fait des statistiques, il compte, etc. C'est très intéressant. Naît un chef d'école, un chef de file, et ça, il va avoir ça va servir au patronage dans la logique de l'organisation académique. Dans l'organisation académique, il va pousser ces gens, c'est-à-dire il deviendra quelque chose comme un patron. Et donc, en d'autres termes, la question que j'ai posée, vous voyez pourquoi je suis toujours dans mes considérations préliminaires, qui semblait extrêmement banale, c'est en fait toute l'histoire de la construction du groupe ou d'un groupe durkheimien qui est en cause, avec ses étapes différentes, avec ses moments différents, avec ses états différents. Et je veux dire, pour moi, dans le type de sociologie que je fais, c'est une analyse des formes de l'objectivation sociale du groupe durkheimien qui est en jeu. Alors tout ça m'amenait, parce que évidemment, comme mes collègues juristes, j'ai été formé à l'école du droit, et donc aussi on m'a appris à faire un plan, il faut que je fasse un plan, donc je vais essayer de dire un plan des arguments que j'aurais aimé indiquer. Hein. Cette histoire du durkheimisme, c'est comme ça que, a posteriori, ça m'apparaît, c'est l'histoire de l'historiographie du durkheimisme. Alors, le durkheimisme a existé aussi, parce qu'il y a des gens qui se sont intéressés au durkheimisme, et vous savez, le durkheimisme, c'était ça. Vous savez, le durkheimisme, c'était des livres. Vous savez, le durkheimisme, ah ben oui, vous avez oublié les articles, etc. Donc, il y a la question de... L'histoire du durkheimisme, c'est l'histoire de l'historiographie durkheimienne. Et si on plonge dans l'historiographie durkheimienne, on est obligé de faire un constat de fait, positif, objectif. C'est l'extraordinaire accroissement de l'historiographie. Et ça, c'est même comptable. Il y a un accroissement de l'historiographie dont on va présumer l'accroissement révérend de l'écho. Du durkheimisme. Donc je voudrais évoquer très vite cette histoire de l'historiographie. Je vais faire défiler des images devant vous. Ça sera très ennuyeux. Je pense que c'est un rappel de choses qui devraient être connues sur le durkheimisme. Donc premier point, histoire de l'historiographie. Deuxième point, je voudrais également revenir, deuxième point d'un plan, sur évidemment... sans céder au subjectivisme, sans céder à l'ostentation du narcissisme, sur ma rencontre avec le durkheimisme. Ma rencontre parce que c'est un moment du durkheimisme. C'est-à-dire, et je découvre en 2016 que ça a été un moment. Et ça, c'est ça qui m'a semblé le plus intéressant. C'est l'insuffisance dans laquelle était le durkheimisme dans les années 70. La situation particulière, je veux dire, dans la situation d'après-guerre, je citerai éventuellement quelques énoncés relatifs au durkheimisme, mais pour Lévi-Strauss, c'est fini, pour Gurwitch, il faut faire autre chose, Jean Stutzel, oh, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, il faut faire de la psychologie sociale, et ce contexte en France, bien sûr, perdure. Bon, et c'est dans cette situation-là que je travaille et j'ai voulu revenir sur cette situation, soit en reprenant des notes, soit en reprenant des textes produits à l'époque, en particulier le numéro de la revue française de sociologie sur Durkheim, qui est à l'origine de la réflexion sur les Durkheimiens, avec le deuxième numéro sur les Durkheimiens, c'est-à-dire c'est 76-79, si mes souvenirs sont bons, et essayer de voir ce que ça pouvait faire voir sur la construction du durkheimisme, ce moment. Alors, je dirais des choses, en particulier, il me semble que ça aide à voir l'existence d'une espèce de dualité fondamentale entre des gens qui vont être des exégètes, des gens qui vont se dire, qui vont dire l'exégète ça suffit pas, il faut faire autre chose, il faut essayer de comprendre les conditions de production, des gens qui vont assez peu se parler, qui vont polémiquer énormément, et là, ça, tout ça, ça va constituer une espèce de mécanisme automatique de renvoi, je citerai ça à partir de textes, qui va contribuer à accroître l'existence du durkheimisme et qui va fabriquer quelque chose qui va être une forme d'incompréhension qui sera ultérieurement comprise comme des groupes. Par exemple, bon, si on dit Boudon-Bourdieu, c'est ce mécanisme qui est en jeu. Alors, il y a Bourdieu d'un côté, il y a Boudon de l'autre. Mais ça n'est ni l'affaire de Bourdieu, ni l'affaire de Boudon. Il y a une espèce de mécanisme, disons, de lieutenant qui perdure tout seul et qui fait qu'on va parler. Vous savez, les Boudoniens sont pas de bons durkheimiens. Ou au contraire, Bourdieu veut être un nouveau Durkheim, bon, avec des accusations croisées et ainsi de suite. Donc, un deuxième point, je voudrais revenir sur cette rencontre personnelle, dire deux ou trois choses qui me permettent de comprendre ce qui m'apparaît dans la constitution de la tradition comme un mécanisme automatique, un mécanisme qui échappe aux acteurs. Et un mécanisme, c'est très important. Ça, c'est aussi lié à l'objectivation. Bon. Alors, tout ça suffit pour revenir sur une histoire passée, et dans cette histoire passée, pour me faire saisir que tout ce qu'on a comme histoire du durkheimisme aujourd'hui, ça ne convient pas. Il faudrait réécrire une histoire du durkheimisme. Elle est à faire, l'histoire du durkheimisme. Bon. Et ça vous étonnera peut-être que quelqu'un qui a travaillé à l'histoire du durkheimisme vous dise « ça vaut rien, on n'a rien fait, c'est à refaire, etc. » Mais c'est ça, je crois, refaire cette histoire du durkheimisme pour comprendre justement des choses qu'on ne sait pas comprendre à travers la notion d'école, en particulier le fait que la notion d'école s'institue... J'allais employer un mot qu'il ne faut pas, s'objective, et que cette notion d'école en s'objectivant cesse d'être un thème de recherche. Voilà l'annonce de mes trois parties. Évidemment, je ne tiendrai pas ce programme.
Ouais, parce qu'il te reste 5 minutes, là.
Alors, je peux faire 5 minutes. Je peux faire 5 minutes. Alors, je vais essayer de faire 5 minutes. Alors, donc, moi, je veux bien. Alors... on peut faire une histoire de l'historiographie. Alors, il faut compter dans des dictionnaires, dans des encyclopédies, c'est extrêmement important, compter dans les encyclopédies les occurrences d'Urquin. Bon, je vous fais grâce de tout ça, parce que j'ai des documents, je n'ai pas porté, etc. Bien. Mais il y a un gonflement, hein, une efflorescence de l'historiographie durkheimienne. Il y a ensuite la conséquence de cette efflorescence, le fait qu'il faut enseigner. Et ça, c'est très important, enseigner. Hein. Et quand il faut enseigner, ça veut dire vulgariser, il faut présenter à de nouveaux publics, et ça va fabriquer des manuels, et ça, des manuels très vite. Hein, dès les années 30, il y a des manuels. Bouglet écrit un manuel où il présente le durkheimisme, par exemple. Bon. Et puis, ça va donner des répertoires, des encyclopédies. Alors là, on va faire le durkheimisme, tout ce que vous voudrez, il y en a plein. Et là-dedans va se passer quelque chose de tout à fait intéressant à partir du moment où on va faire des répertoires et des encyclopédies, c'est que va se dégager déjà un produit très particulier qui est le durkheimisme dans l'histoire des doctrines. Alors, ça m'a rappelé que quand j'étais étudiant en droit aussi, l'histoire des doctrines, l'allergie totale que j'éprouvais à l'histoire des doctrines de la pensée politique, l'allergie totale que j'éprouvais quand je travaillais sur l'histoire des doctrines littéraires et des courants littéraires. Et on est exactement dans cet ordre de problème. Il y a des réflexions sur la construction de ces lignées et de ces courants. Bon, alors je ne sais pas si je me reporte, je voudrais insulter personne, mais là, si je me reporte à l'article de Touraine sur l'école durkheimienne. Si je me reporte à quelqu'un que j'aime bien par ailleurs et qui m'est arrivé de rencontrer, Claude Jamoux, quand il parle du durkheimisme, c'est ça. Il fait de l'histoire des doctrines, ou ils font de l'histoire des doctrines comme ça. Bon, notez que ça apparaît à un moment très particulier, c'est-à-dire à l'origine dans le moment de la vulgarisation de la première génération, et ça va donner lieu à la naissance de cette lignée. Hein ? Il y aura ensuite, évidemment, toute une série de choses dans cette historiographie, la circulation des ouvrages des collaborateurs, la compilation de ces ouvrages, ça fait exister quelque chose qui va être un auteur. Alors, qu'est-ce que c'est Durkheim ? C'est la division du travail, les règles de la méthode, le suicide, les formes élémentaires. Bon. Avec des succès d'ailleurs inégaux. Alors, le grand succès, ce sera la division du travail, pas le suicide. Bon, etc. Avec, des gens qui ont un souvenir pieux. On travaille avec lui. Oh, ouais. Bon. Donc, ils font exister des articles. Ils réexhument des articles, publiés à leur moment. Sociologie et philosophie. Sociologie et pédagogie. Bouglé, Fauconnet. Il y a des gens qui vont éditer des choses. Oh, vous savez, on n'a pas pensé à tout. Il a fait de très bons cours, ce monsieur Durkheim. On va les publier. Advax publie l'évolution pédagogique en France. Le cours sur l'éducation morale, avec là aussi la création du Durkheim, les polémiques sur ce que sont ces cours. Par exemple, polémique Bénard sur la vraie date dans les études durkheimiennes du cours sur l'éducation morale, etc. Bon. Et vous avez un alourdissement de l'historiographie, et ainsi de suite, jusqu'à je ne sais pas, des choses que découvre Nicolas Saint-Bal, puisqu'il est là, par exemple, quand il me montre les deux dissertations de philosophie de Durkheim élève. Intéressant parce que ça permet de revenir sur les textes de Durkheim avant Durkheim. Bon. Donc, un empilement extraordinaire. Cet empilement extraordinaire va conduire au gonflement. Le gonflement par sissiparité, par prolifération, puisqu'on va ajouter à ça les lettres. Hein, première lettre de Durkheim connue, le numéro sur Durkheim de Bénard. Ensuite repris dans les Durkheimiens. Ensuite, l'immense publication que nous permettra Fournier avec Durkheim-Mauss dans son livre, etc., etc., les correspondances. Puis, on va ajouter aux correspondances les documents. Dans les documents, les derniers venus en date des documents sur le durkheimisme, c'est les sorties en bibliothèque de qu'est-ce que Durkheim a lu quand il était à Bordeaux. Bon, et on a ça grâce à, il est là, Nicolas Saint-Bel, c'est très bien. Donc voilà, ça, c'est, tout ça, c'est le gonflement de l'historiographie. Eh bien, ce gonflement d'historiographie, ça nous permet de redessiner une histoire du durkheimisme dont j'avais marqué quelques points, mais je...
Tu la dessines.
Oui, mais je vais pas le faire. Alors, si, d'accord, bon, d'accord. Je ne suis qu'à au premier quart de ma première sous-partie. Hein.
Oula.
Bon,
Loin
bon, d'accord. Alors, ça dessine une histoire, hein, cette investigation dans l'historiographie, une histoire dans laquelle on voit une chose par rapport au problème qui nous intéresse, c'est que la notion d'école n'y joue pas grand rôle, c'est pas très important que ce soit ou soit pas une école, c'est une catégorie dont se servent les collaborateurs de Durkheim. Bien. Alors, cette observation préliminaire, alors, m'amène à ma deuxième partie, là, je vais céder aux objurgations de Jean-Christophe. Je reviens sur le moment très particulier, le moment très particulier des années 70 en France, pour les luttes du durkheimisme. Alors, on a sans doute, oui, c'est très important, hein, un Durkheim prophète vieillot avec... un Lévi-Strauss qui a réglé son compte à Durkheim avec le totémisme aujourd'hui, avec Raymond Aron qui fabrique un Durkheim sans un positivisme bien tempéré, sans aspérité. C'est l'exposé des grandes étapes de la pensée sociologique. On a Jean Stutzel, il nous explique que bon, il s'est fourvoyé complètement, c'est la psychologie sociale, il fait son manuel de psychologie sociale. Et c'est dans ce contexte, je crois, qui caractérise les années 70, d'indifférence bien tempérée, et motivé en partie par ce contexte, que se rencontrent des chercheurs qui sont tous surpris de se découvrir des intérêts intellectuels communs. Il y a là Philippe Bénard qui se démène parce qu'il veut faire vivre le service d'échange et d'information scientifique de la Maison des sciences de l'homme. Il a fait un livre sur Weber, mais il s'intéresse aussi à la psychologie sociale, qui illustrera Denis Jodelet, etc., etc. Il y a là Mohamed Cherkaoui, qui, formé dans l'esprit des classes préparatoires et sous l'influence de sa compagne de l'époque, s'intéresse Oui, parce que son ami était philosophe, et ce n'est pas du tout sans importance. C'est pour expliquer les premiers intérêts de Tchergaoui. Il s'intéresse à l'histoire de l'enseignement, ce qui sera une composante de... Il y a là un peu un égaré issu de la Hongrie, qui est sur les marges, mais que Bourdieu aime bien, et auquel il a confié le fait de faire des œuvres, de rassembler des textes, puisqu'il vient de rassembler avec beaucoup de brio les textes de Mauss. Rassembler. Pourquoi vous ne feriez pas la même chose pour Durkheim? Et donc, Victor Caradi rassemble les textes sur Durkheim. Bon, il y a là... Bon, je suis là, parce que je trouve que, bon, j'ai cherché un sujet de thèse de sciences politiques. Je voudrais pas trop loin être de l'histoire des idées, et en même temps, le droit m'ennuie souverainement, et donc je dépose un sujet sur Émile Durkheim et la question politique. Bon, voilà. Et ces gens-là mangent ensemble, se réunissent, se rassemblent, etc. Voilà.
Il faudrait vraiment conclure, Bernard.
Conclure, non, là, je peux pas. Bon. Alors, ce qui m'intéresse dans ce contexte, c'est qu'il y a des gens qui vont écrire, et dans la façon dont ils écrivent, ils voient différemment ce qu'est Durkheim et ce que sont les textes durkheimiens. Certains sont fascinés par la question de savoir ce qu'ils ont vraiment dit, évidemment, on ne le savait pas. Donc, ça va fabriquer de l'exégèse. Et certains sont intéressés par autre chose, c'est-à-dire comment ce type est-il venu à être ce qu'il est. Et ça, c'est au cœur du numéro de 76 sur le durkheimisme, avec en arrière-plan de l'exégèse le fait que Durkheim vient de nous revenir comme auteur anglais. Alors, c'est Lux, unanimement salué comme la biographie intellectuelle, mais bon, qui pose plein de problèmes, c'est de l'histoire des idées classiques. Bon. Et puis, il y a des travaux, ils disent, comme ça ne va pas, etc., il faut faire ça autrement. Et il y a un article qui représente bien ça, dans lequel on ne va pas du tout étudier ce qu'a dit l'auteur, mais les conditions dans lesquelles il l'a étudié. C'est l'article de Chamboredon, de 75, d'acte de la recherche de cette époque-là. Il n'y a pas un mot sur Durkheim, d'une certaine façon, sur ce qu'a pu raconter Durkheim, mais il y a un programme qui reprend d'ailleurs le programme de Bourdieu de l'époque sur ce qu'il faudrait faire pour connaître Durkheim. Voilà. Alors, il y a une matrice qui est extrêmement intéressante, et une matrice qui, à ce moment-là, va donner naissance à deux courants qui vont s'opposer, se répondre à quelques années d'intervalle. Certains vont faire de l'exégèse, d'autres vont faire de l'analyse des conditions, ainsi de suite, et tout ça jusqu'au développement, depuis les années 70, de la réoccupation patrimoniale de Durkheim avec les grands anniversaires. Ma deuxième partie, alors ça peut pas.
Il faudrait vraiment comprendre, je suis désolé, mais.
Bon, alors.
Il faudrait qu'on en parle.
Oui, je comprends bien. Alors, et la notion d'école là-dedans, la notion d'école, ça ne sert pas à grand-chose pour comprendre ce mécanisme dualiste. Voilà. Alors, il faut que. Troisième partie, je voulais me redemander comment refaire une histoire de la tradition durkheimienne. J'en ai fait une, mais puisque. Je ne dirai pas grand-chose, mais puisque tout le monde a fait l'éloge de Fabiani, je ferai aussi l'éloge de Fabiani, mais pas du tout le texte sur la tradition. Fabiani a publié récemment dans les études durkheimiennes un texte extrêmement bien sur la pédagogie. Et là-dedans, il reprend des données qu'on connaissait depuis toujours, évidemment, mais autrement, dans cette perspective de la construction d'une histoire du présent. Et ce qui est très intéressant, puisque c'est une histoire qui n'est pas une histoire des idées, c'est une histoire qui est liée à des situations et des résultats, c'est une histoire qui comprend des enjeux du point de vue des contextes de socialisation des acteurs, c'est une histoire qui n'a pas l'obsession de la supériorité d'une histoire du moment sur ce qui s'est passé avant, c'est une histoire dans laquelle on peut écrire une histoire, l'histoire d'un travail intellectuel, etc. etc. Donc, je fais l'éloge de ce texte de Fabiani qui permettrait de réécrire une histoire du durkheimisme. Et on se doute bien que dans cette réécriture de l'histoire du durkheimisme, la notion d'école n'a pas grand-chose, mais on peut comprendre quand même que l'école se perpétue à travers ce mécanisme que j'ai dit, et en même temps que l'école ne serve plus à rien parce qu'elle a épuisé sa fécondité, et l'épuisement de cette fécondité, on le retrouve par exemple sur certains concepts durkheimiens, exemple l'anomie, Et on trouvera dans la logique du dualisme que j'ai décrit, des gens qui vont essayer de faire quelque chose de l'anomie. Il se trouve que j'ai été un de ceux-là sur, quand j'ai travaillé sur l'utopie communautaire, par rapport à des gens qui, dans la tradition de l'exégèse, vont dire l'anomie c'est fini, c'est mort, etc. C'est le livre de Bénard sur la mort de l'anomie. Merci.
Quelques remarques, des questions ?
J'ai endormi tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que... Ah, ça, c'est pas ma faute.
Moi, j'aurais juste une remarque. Dans ce que tu as dit, il y a une chose qui pourrait être à creuser, consiste à savoir ce que Durkheim ou la sociologie durkheimienne est devenue. Je signale d'ailleurs au passage qu'il va y avoir un colloque à Bordeaux au printemps qui s'attaque à cette question. Je me disais que tu n'es peut-être pas très, très tendre, puisqu'au fond, on continue à l'enseigner en cours, mais on continue à l'enseigner en cours, me semble-t-il, pas seulement, enfin je ne sais pas, il faudrait demander aussi au collègue, pas seulement comme un objet d'histoire, comme une antiquité, mais il me semble par exemple que tout ce que racontent les Durkheimiens sur la connaissance, les classifications, etc., c'est un préalable indispensable que doivent connaître les étudiants pour comprendre comment tout un tas de sociologues font de la sociologie de la connaissance aujourd'hui, par exemple. Donc, à mon sens, c'est pas mort. ça vit encore de manière plus ou moins évidente ou détournée pour comprendre des choses.
Ça renvoie à l'observation de Javot dans l'histoire de la tradition des idées, c'est-à-dire que tout le monde est durkheimien aujourd'hui. Bon, alors, je vais dire, tout le monde est durkheimien aujourd'hui. Et l'idée d'une sociologie de la connaissance, c'est bien de la rapporter à l'essai sur quelques formes primitives de classification, qui est un texte fondamental, mais en même temps, on trouverait des tas d'autres sociologues qui insistent sur une sociologie de la connaissance de ce type. J'aurais pas de peine, si j'avais du temps, sortir des textes de Max Weber, à sortir des textes de Marx, et à penser que c'est une des directions de l'analyse de la sociologie de la science, telle que dans la logique d'Elias, on peut la faire.
D'abord, je suis en désaccord largement avec ce que vient de dire Bernard. Je considère que c'est tout à fait applicable, et je me suis employé à le faire moi-même, la sociologie durkheimienne dans toutes ses composantes, et elles sont nombreuses et variées, est tout à fait applicable au sens où on peut en faire un critère, toute une série de critères d'investigation. Alors, j'aime bien l'arbre qui symbolise ce colloque. J'avais pris moi-même cette métaphore dans le livre. Parce que je considère qu'il y a des racines et puis des branches aujourd'hui, jusqu'à nos jours. Moi-même, je me considère comme une des petites branchouilles terminales de cette école française de socio-anthropologie. Je la baptise comme ça, de manière totalement évidente. Je ne me suis jamais posé la question de est-ce que c'était légitime ou pas de l'appeler école. Pour tout un tas de raisons que ce plan essaie de justifier. Alors, je mets de côté la personnalité charismatique tutélaire de Durkheim, de même que les logiques de réseau, les soutiens de poste. J'essaie d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire ce qui me semble être l'essentiel, je veux dire le contenu, les convergences de perspectives. À cet égard, je pense qu'on peut parler d'école lorsqu'il y a une filiation, un prolongement. Autrement dit, s'il n'y avait que l'arbre, que le tronc, je veux dire, de l'arbre, les Durkheimiens de 1895 à 1945, je pense qu'il ne faudrait pas parler vraiment d'école. Ou alors une école qui a eu une existence effectivement très limitée, 50 ans dans l'histoire de l'humanité, c'est très peu. Je pense qu'on peut vraiment parler d'école parce qu'il y a une continuation, une continuité, et des prolongements. Alors, mes critères sont ceux du plan, une posture scientifique similaire de ce groupe qui est pourtant extrêmement diversifié. Ils ont tous transgressé les limites disciplinaires entre sociologie et anthropologie. Et ils ont essayé, en ayant un bagage minimal commun ou partiellement commun, de construire, de transgresser ces limites disciplinaires entre sociologie et anthropologie. Alors, le référentiel, au moins en partie commun, il me semble que il est manifesté par d'abord l'auto-identification, catégorie indigène. De ce point de vue-là, je prolonge ce qu'a dit Bernard tout à l'heure. On pourrait même aller beaucoup plus loin, puisque dans l'année sociologique, il est plusieurs fois question d'école durkheimienne, dans la deuxième série d'années sociologiques, en 1925. Et bien longtemps après, d'avis, dans un texte de 58, si mes souvenirs sont bons, alors qu'il a déjà pris des distances à l'égard des durkheimiens, hein, d'une certaine manière, en rejoignant Stotzel, il parle de l'école durkheimienne, non sans nostalgie. C'est vraiment une catégorie indigène qui renforce, en quelque sorte, qui corrobore le fait qu'on n'a pas à se poser la question, puisque eux-mêmes le disent, et de l'extérieur, on reconnaît les durkheimiens comme une école, donc pourquoi se poser la question? C'est une évidence. Alors, maintenant, on peut accentuer les critères pour justement montrer en quoi ils ont raison, tous ces gens-là, de l'intérieur ou de l'extérieur, de dire que c'est une école. Les citations communes, elles sont extrêmement nombreuses. Montesquieu, Rousseau sont cités par des tas de membres du groupe, Saint-Simon aussi, Bouglé cite Rousseau par exemple plusieurs fois, des auteurs moins évidents a priori, Proudhon inspire beaucoup Mauss, Bouglé, Gurvitch, Ansart après la guerre écriront des livres sur Proudhon. Il y a donc un référentiel commun, plus ou moins utilisé par les uns et les autres, mais vraiment un référentiel commun. Dans le référentiel, il y a aussi les oppositions. Commencer par Durkheim, bien sûr, se réfère à Spencer pour critiquer l'utilitarisme, mais Mauss, Bouglé également se réfère à Spencer. Halbach se réfère aussi bien à Rousseau positivement qu'à Spencer négativement. Donc il y a là une véritable... comment ça marche? Bon, peu importe. En fait, je n'ai pas vraiment besoin des images. Deuxièmement, de ma première partie, une même tendance à mêler des constats anthropologiques et sociologiques. J'ai dit qu'on transgressait les limites disciplinaires. Les durkheimiens travaillent à la fois sur le proche et le lointain, vous le savez tous, comme le faisaient Montesquieu ou Rousseau, d'une certaine manière. La transgression des normes disciplinaires est manifeste chez Hubert ou chez Mauss. Elle le sera après la guerre chez le roi Gourand, qui fait de la préhistoire, qui sort la préhistoire de la gangue biologique de la paléontologie et qui travaille sur l'anthrope plutôt que sur le pithèque. Le roi Gourand étant évidemment l'élève de Marcel Mauss. C'est déjà chez Durkheim tout ça. Durkheim, il faut quand même le rappeler, c'est celui qui à la fois manipule les séries statistiques dans le suicide et qui écrit le premier mémoire de l'année sociologique sur la prohibition de l'inceste. Et donc un thème totalement anthropologique. Même Halbach, qui avait pour charge dans la division du travail du groupe des durkheimiens la morphologie sociale, va écrire son texte sur la topographie légendaire des évangiles où il est vraiment question de symbolique, de représentation symbolique des chrétiens. Alors, bien sûr, Bouglé n'est pas en reste, puisque finalement c'est un sociologue mais qui écrit un des livres les plus connus sur les castes. Et même Simian, l'économiste, introduit des coutumes et des religions dans sa méthode historique et résonne en permanence en termes d'institutions. Y a vraiment là une volonté de mélanger la sociologie et l'anthropologie qui va ressurgir avec la fin de l'époque coloniale et avec bien sûr Balandier, mais aussi Duvigneau, Bastide, qui mélangent chacun à sa manière la sociologie et l'anthropologie, comme le feront d'autres compagnons de route qui n'ont jamais été vraiment dans l'EFSA, enfin dans l'école française de socio-anthropologie, que j'appelle EFSA pour simplifier, le collège, hein, l'ERIS, Kaiwa, etc., ou des gens qui sont à l'extérieur, en marge, comme Edgar Morin, ou plus près de nous, enfin, Morin n'est pas encore mort, mais Bourdieu. Bourdieu qui est vraiment en marge, qui est totalement en marge à mon avis, et qui n'est pas vraiment durkheimien. Mais ça, on pourra en discuter. Des approches similaires en matière de partition conceptuelle également, la fameuse séparation de l'article de 1901 qu'on enseigne presque tous aux étudiants en première ou deuxième année, la société, c'est des institutions et des structures sociales, c'est une anatomie et une physiologie, des partitions et en même temps quelque chose qui horizontalise et qui unifie, qui renforce la cohésion. Cette partition, elle est fondamentale. Elle est fondamentale et elle permet de comprendre et pourquoi, par exemple, Balandier va proposer dans Anthropologique, va partir de ces deux versants de la société en disant qu'il y a d'une part les institutions, d'autre part les classes sociales, les inégalités, et que si les institutions, la première partie ne l'emporte pas sur les forces de fractionnement, la société ne perdure pas. Bon, donc ces partitions sont absolument fondamentales, et il y a un système catégoriel qui s'enclenche sur cette partition et qu'on retrouve un peu chez tous les auteurs durkheimiens les plus connus. Hubert, quand il évoque les Celtes, part de la morphologie pour traiter, bien entendu, des modèles culturels et de la symbolique des Celtes. On pourrait le dire aussi de Gurvitch. Bon, alors, j'en viens parce que... Là, le temps passe très vite à ma deuxième partie, une identité faite également d'une sensibilité sociale et d'engagement convergent. On sait tous et les biographes l'ont bien montré, hein, que Hertz ou Signan jusqu'à Mauss ou Bouglet, il y a eu des engagements politiques assez proches de tout ce groupe. Hertz voulait absolument être en première ligne pendant la guerre de 14 parce que c'est comme ça qu'il l'explique à sa femme, en tout cas parce qu'il était socialiste, il ne voulait pas bénéficier d'un régime de faveur. Donc il y a là un engagement qu'on trouve dans le travail, par exemple, de formation des ouvriers par Signan ou par Fauconnet, par Hertz, pardon, et non pas Fauconnet. On l'a également par, évidemment, le travail de Marcel Mauss dans les coopératives ouvrières. Alors, s'il y a eu cet investissement dans les coopératives ouvrières et sur l'associationnisme, c'est bien parce que... c'est Mauss qui nous le rappelle dans son texte sur la cohésion sociale. C'est parce que les Durkheimiens cherchaient une troisième voie. Une troisième voie entre l'individualisme et le socialisme autoritaire, en quelque sorte, d'un État trop fort et étouffant. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'ils s'intéressent beaucoup à Proudhon. Et que beaucoup d'entre eux, Proudhon est un espèce d'auteur comme ça, qui plane dans les référentiels de presque tous les auteurs de cette école. J'en avais parlé avec Philippe Stenner, dont je regrette l'absence, et il m'avait dit qu'il avait confirmé que le proudhonisme est en quelque sorte une espèce de pensée commune des durkheimiens. Qu'est-ce que c'est finalement s'attacher plus à la cohésion sociale qu'à la lutte des classes? C'est finalement adopter en sociologie, c'est plaquer sur la sociologie ce choix idéologique. Et en travaillant sur la cohésion sociale, on travaille sur ce qui fait lien, ce qui fait que la société persiste en dépit de ses fractionnements et de ses inégalités, de ses injustices. C'est le travail sur les institutions et sur les normes, bien sûr, Et de ce point de vue-là, la définition de ce qu'est la solidarité à tous les sens du terme, hein, disposition altruiste, but des institutions, mais aussi division du travail, solidarité organique, également un point commun fondamental des Durkheimiens. Alors, j'insiste sur le fait que travailler sur la cohésion n'empêche pas, ne signifie pas qu'on est dans le structuro-fonctionnalisme comme certains auteurs ont pu le croire. Il y a une permanente insistance sur l'histoire et sur le comment les formes sociales se sédimentent. Durkheim dit par exemple le présent n'est rien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit le présent n'est rien ? C'est-à-dire que tout est dans l'histoire qui structure le présent et aussi dans l'avenir. Dans l'avenir qu'on peut essayer de modifier d'une certaine manière. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il y a un proto-actionnalisme chez les Durkheimiens qu'on va retrouver très fortement après la Deuxième Guerre mondiale avec Ballandier, Gurwitch, etc., dans leur lutte contre le structuralisme. Mais il y a un proto déjà chez Durkheim. Dans le congrès d'Épinal, j'avais développé l'analyse que fait Durkheim dans l'évolution pédagogique en France, qui est une analyse proto-actionnaliste, que malheureusement, à mon avis, Tourelle n'a pas lu, où il y a déjà l'identité, l'opposition, la totalité dans des acteurs du conflit à la naissance, pour la naissance de l'université. Donc, il y a bien un actionnalisme, une attention aux dynamiques historiques extrêmement fortes chez les Durkheimiens que je ne vais pas développer là, mais j'ai souligné là quelques extraits de l'évolution pédagogique en France. Voilà les termes qu'utilise Durkheim, conflit, duel, adversaire, boycottage, lutte, bon, etc. Il y a l'IOT de Touraine là, sans le moindre doute. Alors, d'autres critères pourraient être avancés pour montrer qu'il y a que ce qui fait école chez les Durkheimiens, une perception, je pense à la perception globale de l'être humain, qu'on retrouve aussi bien chez Mauss dans son essai sur les Esquimaux que chez Durkheim déjà dans l'éducation morale où il évoque le jeune socialisé comme une totalité en quête d'autonomie, hein, un texte très fort à mon avis d'éducation morale, mais on la décèle également chez Simian, qui ne se laisse pas bercer par les facilités du déterminisme géographique ou technologique, en affirmant que la culture est aussi importante pour comprendre le développement économique que les ressources du milieu. Et on la retrouve même chez Alvax, lorsqu'il fait cette très intéressante analyse dans la classe ouvrière et les niveaux de vie sur la consommation des ouvriers, et on ne peut comprendre, enfin, chez Alvax, pour qui on ne peut comprendre la consommation qu'en l'articulant en permanence au milieu, mais aussi aux conditions professionnelles, mais aussi à la culture, enfin bref, et qui est à l'origine du concept sociologiquement appliqué et applicable de genre de vie. Alors, pour la troisième et dernière remarque, une égale distance ou une distance similaire aux perspectives différentes, distinctes, c'est évidemment face à l'utilitarisme et à la micro-sociologie des relations interhumaines que les Durkheimiens se constituent leur cohésion interne. C'est pas simplement Spencer, c'est Tard aussi. À mon avis, Valade avait tort de dire que Tard se foutait, ignorait les Durkheimiens, parce que Tard appelle Durkheim son éminent adversaire, je le rappelle. Donc, Durkheim, par exemple, ne renonce pas à montrer que les orientations de Tönnies dans Communauté et Société s'appuient sur celles de Bentham et de Spencer. Il y a donc un ensemble qui fait également école, on se constitue par opposition et par différence à l'égard des autres. Et les autres, c'est d'abord les utilitaristes. Et à mon avis, après la Deuxième Guerre mondiale, ça sera également les structuralistes, en tout cas en lisant Gurvitch, Ballandier ou Duvignon. Alors, comme je ne veux pas dépasser mon temps, je conclue. J'ai évacué, sans les traiter, les aspects réseau des Durkheimiens pour me centrer sur les contenus académiques. Mais j'aurais pu tout aussi bien dire que mes propres travaux, finalement, s'inscrivent dans la tradition de l'EFSA, complètement. Ça aurait été plus simple, finalement. Mais ça aurait été quand même trop simplificateur et non pas narcissique. J'en tire aucune gloire personnelle. Ça s'est fait en dépit de moi, si je puis dire. Mais je pense que je ne suis pas le seul à inscrire mes travaux dans la continuité. Dans le cours fait en Espagne, qui est à l'origine de ce livre, l'École française de socio-anthropologie, que j'avais publié en espagnol d'abord, à la demande des Espagnols, qui pour eux, l'école existe, cette école existe, puisqu'ils m'ont demandé un cours dessus. Je cite une cinquantaine de sociologues français, parmi ceux que je connais le mieux, qui me semblent relever partiellement ou complètement du durkheimisme, dans toutes ses facettes. Ça peut être du mossisme, ça peut être du bougléisme, ça peut être du... etc. Qui se rattachent d'une manière ou d'une autre à cette école. J'ai dit une cinquantaine parce que je les connaissais, mais ils sont sans doute deux fois plus nombreux. Et je pense qu'au moins un quart des membres de l'ISLF, je le dis ça totalement au pif, je n'ai fait aucune mesure. Il faudra faire une enquête, mais je pense qu'un quart au moins, dans les 500 sociologues de l'ISLF, se reconnaîtrait parfaitement, se rattacherait en quelque sorte à cette école. Alors, en quoi suis-je durkheimien et me semble-t-il, suis-je une des petites branches finales de l'arbre parce que j'ai appliqué, et c'est applicable la sociologie durkheimienne, contrairement à ce qu'a dit Bernard tout à l'heure, la définition que donne Alvax des genres de vie, je l'ai appliquée, j'ai fait des enquêtes empiriques dessus, et en montrant que dans la même classe sociale populaire, il y a des genres de vie différents, et Alvax l'avait déjà dit. Et bien entendu, ça ne se pose pas aujourd'hui de la même manière que de son temps, mais c'est tout à fait démontrable empiriquement, et je l'ai fait, y compris avec des enquêtes quantitatives. J'ai mélangé les enquêtes quantitatives et les approches qualitatives anthropologiques, j'ai écrit plusieurs textes dessus. Je me suis attaqué à l'évolutionnisme, comme Mauss et comme beaucoup de... comme Huber à l'évolutionnisme social, au plaquage du spencerisme sur l'analyse de l'histoire sociale. Je me suis attaqué, comme Huber, bien entendu, les travaux sur la préhistoire sont fondamentaux pour moi parce que j'ai été très impressionné par le roi Gourand. Et enfin, mes derniers ouvrages, en dehors de celui-ci, c'est sur la technocratie. La technocratie, qui est une catégorie analytique que Gurvitch remet au goût du jour à partir d'une lecture critique de Burnham en 1949, et qui, ce concept qui sera repris par Ballandier ou des gens en marge de l'école française, je pense à Lefebvre, par exemple. Et donc, je suis très modestement un des exemples parmi tant d'autres. Je pense à David Le Breton, par exemple, qui a été élève de Duvignaux, etc., etc. Je suis un des exemples parmi beaucoup d'autres de prolongation de cette école et de mise en œuvre pratique empirique dans les travaux de recherche de terrain des perspectives de l'école française. Donc voilà, il n'y a pas à se poser la question. Nous sommes plusieurs à montrer que cette école existe et qu'elle persiste et que c'est applicable. Je vous remercie de votre attention.
Donc, Durkheim's not dead, s'il y a des gens qui sont inspirés. Jean.
J'ai entendu que tu disais que Touraine était déjà connu par Durkheim. Je voulais savoir si tu avais parlé avec Touraine, ce qu'il en pensait.
Ah Alors oui, c'est très simple. À mon avis, Touraine n'a pas lu sérieusement, contrairement à Dubé, Durkheim et les Durkheimiens. À mon avis, j'ai beaucoup fréquenté Touraine, hein, longtemps, hein, il n'a jamais évoqué l'évolution pédagogique en France. Alors qu'il y a les principes de ça. On est en train de faire les actes du colloque d'Épinal, où j'ai développé cette analyse-là, les principes de l'actionnalisme tourinien, de l'analyse des mouvements sociaux à la base de la naissance des institutions, sont chez Durkheim dans l'évolution pédagogique en France. Donc, sur deux chapitres, on peut en faire la démonstration. Cela dit, elle est faite, je crois, dans les actes de ce colloque d'Épinal. Mais je pense que c'est une lecture très parsonsienne que Touraine avait, enfin a, ou avait, même, de Durkheim. Et il l'a toujours considéré comme un fonctionnaliste. Alors que Durkheim, on peut le lire sous l'angle du fonctionnalisme, c'est vrai, mais je pense que la véritable lecture de Durkheim, c'est la lecture qu'en fait Balandier quand il parle en quelque sorte d'anthropologie dynamique, les formes sociales, les formes instituées sont une sédimentation de l'histoire, mais ces institutions, elles sont en permanence travaillées par l'action, c'est dans le texte de Fauconnet et Mauss, c'est l'approche dynamique finalement qui est fondamentale, c'est pour ça que je raccroche le durkheimisme de l'école française à l'actionnalisme. Sans me référer à Touraine, pour le coup, évidemment. À l'actionnalisme global, globalement.
Thierry.
Par rapport à ce qu'on a entendu ce matin, est-ce que c'est justement une école française, le durkheimisme, l'école française, ou comment est-ce que tu prends en compte les utilisations ou les gens qui se réfèrent à Durkheim
Bah, en fait, j'ai l'impression, je connais très mal les autres Durkheimiens en dehors de la francophonie. Mais j'ai le sentiment, pour avoir lu quelques textes, quand même, que c'est plutôt des Durkheim studies qui sont en Angleterre notamment, aux États-Unis aussi. Ce sont des gens qui, un peu comme Jean-Christophe, s'intéressent à l'histoire de la pensée. Mais pas forcément des gens qui appliquent, mais encore une fois, je me trompe peut-être, hein, parce que je connais mal, qui cherchent à appliquer, comme je l'ai fait par exemple pour les genres de vie, à faire des enquêtes empiriques sur les modes de consommation et les pratiques, les usages dans la vie quotidienne, selon les classes sociales. J'ai pas l'impression, hein, mais encore une fois, je me trompe peut-être. Je l'ai appelé École française de sociologie en reprenant des termes utilisés depuis toujours par plein de gens parce que elle est en France. Là, il y a toute une série d'auteurs là, c'est pas un nuage de mots, mais presque. Ils sont tous français. Maintenant, il y a sans doute, une influence à l'extérieur dans des enquêtes empiriques, mais je ne la connais pas. Désolé.
Somme toute, ça pourrait conduire à s'interroger sur... Parce que moi, ce que je trouve intéressant dans ton travail, là, c'est cette idée que, au fond, pour les Durkheimiens et puis pour un certain nombre de gens qui les ont suivis, il n'y a pas de différence entre la sociologie et l'anthropologie, parce qu'au fond, les matériaux, les concepts, les manières de procéder de l'une et de l'autre permettent en gros de construire une théorie générale, quoi, si j'ai bien compris ce que tu dis. Et de fait, alors, j'ai pas la prétention de connaître les sociologies étrangères, mais c'est vrai que pour le coup, à cette époque-là, à ce moment-là, c'est un phénomène bien français, me semble-t-il.
Bien français, oui, d'ailleurs, dans le titre du livre, j'ai enlevé le tiret. Pour moi, socio-anthropologie se sont mariés, vraiment. Et du coup, on peut enlever le tiret. J'étais frappé par le nombre de départements de sociologie en France où on enseigne l'anthropologie, ou qui s'appelle socio-anthropologie. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Jean-Christophe, il me semble que les Américains disent anthropologiste ou sociologiste d'une manière assez comparable, j'ai l'impression.
D'accord.
Et donc peut-être que là, il y a une influence de l'école française, ou peut-être de l'école allemande aussi, par certains côtés, de certains Allemands en tout cas. Mais ce qui frappe quand même, en dépit de ça, c'est que il y a beaucoup de sociologues américains. Quand on regarde les bibliographies des textes américains, très fréquemment, on est frappé par le fait qu'il n'y a quasiment pas de référence française ou allemande. Ah, c'est un auto-système référentiel centré sur le monde anglo-saxon.
Bon, oui, une dernière question.
Oui, il y a toujours effectivement un phénomène d'étiquetage. Je pense qu'il est difficile de faire de la pédagogie, d'enseigner la sociologie, si c'est dans ce sens-là que vous parlez d'école, sans modéliser, c'est-à-dire au sens de simplifier. Donc on modélise au sens de la simplification en faisant des groupes peut-être de manière... Oui, on dualise, effectivement, et on caricature presque. Je suis assez d'accord. Cela dit, si on veut lire sérieusement ce groupe très finalement disparate, parce que bouglé par beaucoup de côtés est original, comme l'est également Hubert, on est obligé d'admettre que, et c'est déjà chez Durkheim, qu'il y a vraiment une vision dynamique des institutions. Je suis toujours frappé de lire ou d'entendre, chez Touraine par exemple, que Durkheim serait un fonctionnaliste ou le sociologue de la contrainte sociale. C'est faux. Enfin, ce n'est pas parce qu'il s'est intéressé beaucoup aux normes, et pour lui les normes c'est fondamental comme sécrétion des institutions et pour remettre un peu d'ordre dans les dégâts que fait le marché et un peu de justice sociale. Pour toutes ces raisons-là c'est fondamental les normes. Mais ce n'est pas pour ça que c'est le sociologue de la contrainte et du fonctionnalisme. Durkheim dit que les criminels sont peut-être ceux qui préfigurent. Il le dit dans plusieurs textes. Le changement social, l'ordre à venir. Donc il y a une définition positive de l'anomie. L'anomie, ça peut être la préfiguration du changement social. Il y a donc bien une dynamique des institutions. Il me semble que que j'appelle actionnaliste, hein, d'une certaine manière, avant la lettre. Pour moi, cette dynamique des institutions, cette attention à l'histoire et aux dynamiques sociales, c'est vraiment ce qui structure le plus ce courant intellectuel, comme le disait Balandier, qui hésitait à parler d'école. Quand je l'ai interviewé il y a 2 ans pour écrire ce livre, il y a 3 ans maintenant, il disait non, c'est plus un courant de pensée, parce que pour lui, l'école, c'était disciplinaire, doctrinal. Et lui se sentait libre, tout en étant durkheimien, durkheimossien, il se sentait libre. Et donc il disait, non, les structuralistes, c'est une école où les marxistes, les plus staliniens, oui, mais pas nous, pas nous, il dit nous. Donc il préférait courant. Et je lui dis, mais on parle bien d'école de Francfort, et ils sont tout aussi disparates. Il me dit, oui, dans ce cas-là, on peut parler d'école française de socio-anthropologie. Voilà.